11h midi, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 pour cette deuxième émission de la saison. Pendant ses vacances, elle a trouvé l'amour, ce fut court mais intense. Puis elle a dû lui dire au revoir, Will travaillait dans un péage. Celle qui attend la dépanneuse sur la bande d'urgence de l'autoroute de l'amour, Christine Bérou.
Bonjour, bonjour à tous.
Ses vacances ne se sont pas tout à fait passées comme prévu. Il a pris des vacances chez lui, mais il a réussi à reprendre un rythme de vie normal ce matin, savoir prendre son petit déjeuner avant l'apéro. Celui qui revient de loin alors qu'il n'était pas parti, Jean-Philippe Fizini.
Bonjour à tous, bonjour les amis.
Lui, il n'est pas encore parti en vacances. Il a un teint d'une belle couleur d'oliprane et l'air aussi reposé qu'Edouard Philippe un lendemain de cuite. Le ni juilletiste ni haussien Benache.
Bonnes vacances. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Et celle qui hier soir a bien écouté Emmanuel Macron à la télé, elle était heureuse de passer une soirée en tête à tête avec un bel homme, même si elle ne pouvait pas en placer une, Anne Romanoff. Ouais.
Au sommaire de cette émission, Jean-Philippe Fizini nous racontera ses vacances catastrophiques en famille. Puis nous recevrons l'auteur, réalisatrice et chroniqueuse Géraldine Maillet pour son nouveau livre, Le Carnet Interdit, coécrit avec sa fille Mathilde, qui vient de sortir aux éditions Hugo Jeunesse. Et à 11h30, nous accueillerons Éric Emmanuel Schmitt, qui sera sur la scène du théâtre Rive Gauche avec sa pièce Madame Pilinska et le secret de Chopin à partir du 29 août pour 30 représentations exceptionnelles. Il nous parlera de son nouveau livre, Journal d'un amour perdu, consacré à sa mère, qui sortira le 5 septembre aux éditions Albin Michel.
11h midi, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Alors hier soir, Emmanuel Macron était aux 20h de France 2. Lui, Anne-Sophie Lapix, c'était beau, blond, mince, élégant, bronzé. On aurait dit Ken et Barbie en rendez-vous Tinder au bord de la mer. Le beau président répondait à la belle présentatrice d'une voix douce en faisant de la pédagogie. Macron lui a tellement reproché d'être arrogant que maintenant il nous parle comme si on était en première année de maternelle. Vous n'avez pas bien compris, je vais vous expliquer. Alors pour ceux qui n'auraient pas regardé hier soir, je vous résume ce qui s'est dit. On importe beaucoup trop de soja pour nourrir les animaux et c'est pas bien. Parce que le soja, ça abîme la forêt amazonienne, c'est Macron qui l'a dit. Même s'il nous a pas expliqué comment le soja arrivait à mettre le feu à une forêt. Le président l'a dit, la France doit reconquérir sa souveraineté protéinique.
Ça, c'est un programme.
Comment on reconquiert sa souveraineté protéinique, hein? Je vous le demande.
On ne sait pas.
Je ne sais pas, il ne l'a pas dit. Make protein in France great again. Ça, c'est un beau projet. Hier, on a appris un autre mot grâce au président. Reforester, c'est quand tu plantes des arbres dans la forêt. Reforester, on peut le faire chacun à notre mesure. Par exemple, moi hier, j'ai acheté un pot de basilic. J'ai reforesté ma cuisine.
Ah, oui.
Mon voisin, il a reforesté son crâne avec des implants capillaires. Et quand tu ne vas pas chez l'esthéticienne, tu reforestes ton...
Bref. Ouais, ouais.
Hier soir, le président Macron était content parce que la France a rayonné, lui-même rayonnait, Anne-Sophie Lapix était rayonnante et nous, en regardant la télé, on se sentait presque irradiés par leur rayonnement. Sauf que le G7, c'est comme quand tu pars en séminaire avec ta boîte, t'as l'impression que tous les problèmes sont résolus et quand tu reviens, bam, tu te prends la réalité en pleine face. Ce matin, on a appris que Bolsonaro refusait les 20 millions d'euros proposés par le G7 pour éteindre l'incendie dans la forêt amazonienne. C'est une vraie tête brûlée, ce Bolsonaro, pendant que son ego s'échauffe et qu'il s'enflamme. La forêt continue de brûler et nous, on regarde, impuissants et désolés, le poumon de la planète partir en fumée.
Anne Romanoff sur Europe.
Alors, c'est toujours dur, la rentrée. Hein. Rentrée, reprise. C'est quoi votre astuce pour vous réjouir de la rentrée, Jean-Philippe?
Moi, la rentrée, j'adore parce que c'est le moment où je recommence à vivre, à m'épanouir.
Parce que vous commencez à travailler?
Non, parce que les gamins, ils retournent à l'école. Allez, hop! 2 mois à la maison, j'en peux plus, moi.
Ben H.
Alors moi, ma petite astuce, c'est de ne pas prendre de vacances du tout. Comme ça, à la rentrée, ça ne change rien. Et en plus, tu peux te réjouir de ne pas être le seul à bosser.
Mais vous n'allez pas prendre du tout de vacances?
Si, 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 mais je vais attendre le mois de septembre que vous perdiez tous votre bronzage. Comme ça, moi aussi, je pourrais frimer à mon retour.
Jean-Philippe Fizini, vous avez eu des vacances compliquées cet été?
Oh, c'était horrible.
Mais non.
Alors, mais
vous avez commencé à nous raconter
mais
hier,
oui,
mais là on veut la suite.
Mais c'est la vérité. Voilà, d'habitude, souvent on raconte des. Voilà. Là, je vous jure, c'est la vérité. On avait réservé une semaine de vacances avec ma femme et les enfants en Turquie. On est arrivé à Roissy et on s'est rendu compte que les passeports des enfants étaient périmés. Et c'est pas la première fois que ça nous arrive. L'année dernière déjà, on était partis en vacances en Bretagne chez mes beaux-parents. Et là, c'était ma belle-mère qui était périmée. Ma belle-mère que j'embrasse, car je sais qu'elle nous écoute tous les jours. Bisous, belle-maman, bisous, bisous. Donc du coup, impossible de partir en Turquie. Du coup, bah, on a pris la voiture et on est parti direction la Côte d'Azur. On est allé à Saint-Tropez. Et ouais, je vais à Saint-Tropez. Bah ouais, hein. Je suis Jean-Philippe Visini quand même. Hein. Je suis une star de la radio. Alors j'ai décidé de ne plus me mélanger avec le peuple. Ouais. On arrive au parking de la plage. Là, il y a un mec qui me défie et qui me pique la dernière place juste sous mon nez. Là, je suis descendu de ma bagnole. Je me suis mis torse nu. Je lui ai dit, viens ici, je vais t'éclater la tronche. Le mec, il me dit, vous savez qui je suis? Je lui dis, non. Il me dit, je suis le colonel de la gendarmerie de Saint-Tropez. Ah? Je lui dis, et moi, vous savez qui je suis? Il me dit non. Je fais, ben, tant mieux. Ensuite, les enfants avaient soif. Du coup, on est allé boire un coup au Sénéqué. Vous connaissez? Oui. Le Sénéqué, c'est le fameux bar rouge emblématique de Saint-Tropez qui se trouve sur le port. Le serveur m'apporte la carte des boissons avec les prix. Je dis, excusez-moi, les prix, c'est en euros. Il me dit, oui, pourquoi? Je dis, bah oui, parce qu'au prix du café, on peut s'acheter une voiture. Il me dit, qu'est-ce que je vous sers? Je lui dis, apportez-moi un verre vide, je vais attendre qu'il pleuve, ça sera moins cher. Bref, du coup, au bout de 3 jours, on n'avait plus d'argent, on est retourné à la maison, mais c'est la première fois de notre vie qu'on s'est dit, vivement la rentrée.
On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Jean-Philippe Bizini, Ben H, Christine Béroux et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour Thalasso pour 2 personnes en hôtel 5 étoiles en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis ».
Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizini, Ben H, Christine Béroux. Christine Béroux, vous avez passé des bonnes vacances?
Oui, très.
Oui?
Ouais, c'était super grâce à un nouveau détail, ça s'appelle le célibat. Et alors ça ouvre des portes. J'ai passé un très très bon été.
Ah oui, vous avez rencontré des...
Non, pas la peine, je veux dire, pourquoi rencontrer, juste profiter de la vie, voilà.
Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas.
Vous avez été à Las Vegas?
Oui, c'était vraiment très bien, ben, j'ai vu des Chip and Dale, beaucoup de choses culturelles à Las Vegas.
Juste vu.
Mais vous avez été toute seule?
Oui, c'était très bien.
Et vous avez fait des rencontres?
Qu'est-ce que vous appelez une rencontre?
Mais non, je sais pas, des Américains.
Vous
des...
avez vu mon niveau
une
d'anglais.
Une petite nuit avec le sosie d'Elvis Presley.
C'était très sympa. Et vous, Anne, vous avez passé un bel été?
Oui.
Et alors
bien.
L'amour? Alors,
eh ben l'amour...
Ça vient. Qu'est-ce
ça vient, ça va.
Oui,
ça va.
À New York, peut-être un New Yorkais?
Non.
Pourtant, vous avez un niveau d'anglais qui permet...
Bon, alors c'est le moment de notre jeu.
Qui s'appelle?
Qui s'appelle Christine?
Devinez qui je suis.
Europe 1, Anne Roumanoff.
Le principe est simple, 2 auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Hier soir, c'était le retour de l'émission L'amour est dans le pré pour une 14e saison. Ah. Et bien, aujourd'hui, il va falloir deviner une émission de télévision. Mmh. On change un petit peu le concept.
Oh là là, révolution,
le au lieu de trouver une personne. Non, mais ça, maintenant, on va changer un peu tous les jours. Oh, grâce à Europe 1, tenter de gagner un séjour pour 2 personnes de 2 nuits à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien-Relais-Château en formule petit déjeuner avec 2 soins d'hydrothérapie par personne. Vous jeûnez le reste de la journée.
C'est ça. Tu m'étonnes qu'on maigrit. Bah oui,
Poursuivez l'été à l'île de la Lagune, l'unique boutique hôtel Thalasso Spa 5 étoiles des Pyrénées-Orientales, un cœur de verdure bordé par la Méditerranée. Année, montagne à l'horizon, soleil chaleureux, un lieu de villégiature qui préserve votre intimité où chaque endroit est pensé cocooning pour le confort et le plaisir des yeux. Plus d'infos sur www.hôtel-île-lagune.com.
J'ai beaucoup aimé l'accélération.
Mais non, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de tirets. www.hôtel-île-lagune.com. Et parce que c'est la rentrée, Europe 1 offre aussi aux 2 participants 2 cartables et 2 trousses. Paul Fox.
Ah ouais.
Des cartables solides, légers, ergonomiques. Paul Fox, avec son côté réversible grâce à son velcro, un cartable, 2 possibilités.
On se moque pas des gens. Hein. On se moque pas.
Après, on n'en parle plus, mais c'est quoi la 2e possibilité du
cartable? C'est réversible.
Oui, mais dans quel sens?
C'est un peu comme dans l'amour. Tu veux
mais
tout
oui, mais c'est le cartable, si vous le retournez, tout tombe par terre.
Bon. Ben, je sais pas.
Ça sera la curiosité
plus,
de la semaine.
Et ben, plus de détails sur le site www.paul-fox.com. Tu vas voir, ils vont t'expliquer.
Je vais aller sur paul-fox.com.
Voilà, on joue d'abord avec Audrey. Bonjour Audrey.
Bonjour Anne, bonjour tout le monde et bonjour au public. Bonjour.
Alors vous avez 37 ans Audrey, vous êtes secrétaire à la mairie de Rabastens dans le Tarn.
C'est ça.
Vous avez deux filles de 6 ans et 8 ans.
Oui.
Vous avez passé un bon été ?
À travailler, mais ça a été.
Et vous partez pas en vacances du tout ?
Eh bien non, pas encore. C'est pas prévu au budget. Je me suis séparée, une séparation ça coûte cher.
Ah bah ça, qu'il dit de vous.
Mais est-ce que c'était pas la meilleure décision de votre vie, Audrey ?
Oh oui.
Ah bah voyez.
La liberté ça vaut tout l'argent du monde.
Est-ce que vous êtes épanouie depuis ?
On se croirait au salon du célibat là, avec vous.
Je suis plus sereine, on va dire.
Ah, vous êtes séparée depuis combien de temps ?
Depuis le mois de juin.
Ah bah oui,
on va faire un petit collectif.
Oui, comme Christine depuis le mois de juin.
Il s'est passé quelque chose.
Non, en fait, on est vraiment séparés depuis le mois de janvier, mais on ne vit vraiment plus ensemble depuis le mois de juin.
Ah oui, ça fait 9 mois, on est heureux sur le marché, là, du coup. Il y a une sorte d'ouverture à la proposition.
Absolument, tu peux te calmer, Ben.
Peut-être à la mairie, vous êtes en contact avec les gens à la mairie ? Vous faites quoi ?
Tout à fait. Ah oui, ben... je travaille au niveau de... Oui, mais non.
Mais il y a quelqu'un qui va venir faire sa carte d'identité. Et pof.
Oui,
Shabada. En général, c'est les grandes histoires d'amour, ça commence comme ça.
Qu'est-ce que vous dites, Audrey ?
Oui, il va faire sa carte d'identité, puis je vais la lui faire, il viendra la chercher, et salut. Ah non, je suis très radicale, je ne suis pas du tout.
On sent qu'il y a un truc qui est fermé, là. Oui.
Moi, j'ai fait ma carte d'identité, je suis tombé sur la même personne que vous. Hein. C'était pareil. Je suis venue, elle m'a dit bonjour, le papier, la photo, salut.
Audrey.
Oui.
Donc la liste 1 ou liste 2 ?
J'enfile avec la liste 2.
Ah, c'est bien. Donc ça, ce sont des émissions de télé à deviner, le maximum d'émissions de télé à deviner en 40 secondes. Vous êtes Jean-Philippe, vous êtes au taquet, là, c'est bon ?
Bah, j'essaie de comprendre le jeu.
Non, non, mais oui. Attention, top chrono.
L'émission où on présente les voitures sur la 6.
Mais d'autres, il y en a... Turbo, elle l'a dit.
Ça, c'est sur la 2, il y a le père Fouras, c'est au large de La Rochelle. Ça, c'est quand il y a des gens connus qui dansent avec des danseurs professionnels.
Avec des stars.
Ça, c'est on cherche des nouveaux chanteurs sur la 6. Il y a un jury, ils sont 4.
Les The Voice ?
Non, l'autre, sur M6.
Je sais pas.
Ils sont dans la jungle, il faut qu'ils survivent comme sur TF1. C'est présenté par Denis Brogniart.
Sortez-moi de là.
Non, c'est pas ça. Ça, c'est... il faut, on peut gagner beaucoup d'argent, il y a des questions. C'était présenté par Jean-Pierre Foucault avant, c'est...
Qui veut gagner des millions.
Oui, ouais. Allez, je lui laisse parce qu'elle est célibataire.
Jurisprudence.
Mais non, mais c'est ma chouchoute, la pauvre.
Oui. 8 secondes
elle
n'est
pas partie en vacances, elle s'est séparée, elle ne croit plus en l'amour. Il faut qu'elle gagne ce week-end. 4 bonnes réponses, vous n'avez pas trouvé Koh-Lanta et la nouvelle star. Bon, j'espère que le deuxième est... Voilà, parce que...
Il aura que 5 secondes. Oui, de toute façon,
le deuxième, il part avec une jambe en moins. Donc...
Aurélien, bonjour.
Oui, bonjour.
Aurélien, vous avez 35 ans, vous êtes réceptionniste d'hôtel à Nantes.
Avec l'esprit Coubertin.
C'est ça, oui.
Voilà.
Quel hôtel ?
Yann Roumanoff, vous n'aime pas du tout.
Quel hôtel ?
Mercure.
Ah, Mercure. Ah. Il paraît que vous êtes célibataire depuis 2 ans.
Oui, c'est ça. Aussi célibataire, ouais.
Ouais. Et alors ?
Et je suis très heureux célibataire.
Bah oui, moi je crois que c'est ça la solution.
Mais évidemment, mais bien sûr.
Mais au moins, tu souffres pas de quelqu'un, tu vois ? Mais c'est vrai, quand t'es avec quelqu'un, t'as toujours des problèmes à un moment.
C'est vrai.
La personne, elle fait pas ce que tu veux, elle est pas comme tu veux.
Bah, ça s'appelle partager sa vie, c'est vrai, c'est un concept.
Alors que quand t'es tout seul, et ben...
Mais en fait, il faut être seul et ne rien attendre des autres. C'est ça la clé, moi, c'est ça que je viens de comprendre.
Moi, je suis marié, j'ai 2 enfants, je me sens marginal avec vous. J'ai l'impression d'être un original.
Aurélien, vous prenez du bon temps quand même.
Bah, franchement, ouais, j'ai des bons potes, donc ça va, quoi.
Oui, c'est pas ce que je voulais dire, mais ok.
Bon, vous jouez avec la liste 1, vous choisissez qui, Aurélien ?
Eh bien, Christine.
Ah.
Attention, donc des émissions de télé à deviner, attention, top chrono.
C'était la toute première émission de télé-réalité avec Loana qui a fait des
Love
trucs...
Love Story ?
Oui, alors, c'était présenté par Nico, c'était juste après, il y a Jennifer qui a gagné au début. Oui, c'est ça. Il fallait deviner le montant des objets, c'était présenté par Philippe Risoli, il y avait le tyrolien. Oui, c'était présenté par Fred et Jamy, ça expliquait la science aux enfants.
C'est pas sorcier.
Oui, c'est un concours de cuisine le plus connu, où il y a...
Bah,
ouais, alors c'est l'émission de chant maintenant avec Nikos et Alexiège qui se retourne.
The Voice.
Voilà, c'est, bah, on parle d'un sport, le ballon rond. C'est une très vieille émission de
téléfoot.
Ouais, alors c'était présenté par... c'est des gens qui viennent expliquer qu'ils ont fait des... voilà.
Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes réponses.
Ouais. C'est large.
Bravo Aurélien, vous partez avec la personne de votre choix pour un séjour de deux nuits à l'hôtel 5 étoiles Thalasso Spa de l'île de la Lagune à Saint-Cyprien-Relais-Château en formule petit déjeuner avec deux soins d'hydrothérapie par personne. Poursuivez l'été dans ce cœur de verdure bordé par la Méditerranée. Plus d'infos sur www.hôtel-île-lagune.com. Et parce que c'est la rentrée, Europe 1 vous offre, Audrey et vous...
Attention, et c'est des Paul Fox. Hein.
Un lot de deux cartables et deux trousses Paul Fox. Paul Fox, des cartables solides, légers, ergonomiques. Paul Fox, avec son côté réversible grâce à son velcro.
Voilà,
un cartable, deux possibilités. Infos et descriptions sur www.paul-fox.com. Vous êtes heureux, Aurélien ?
Ah, je suis très heureux.
Audrey, pas trop déçue ?
Eh bien non, écoutez, Anne, vous avez déjà joué en juin et j'attendais vos places de votre spectacle. Donc j'ai perdu une fois, j'ai perdu deux fois et on ne dit jamais 203.
Voilà.
Donc j'espère que la prochaine, c'est la bonne.
Bah, c'est une bonne mentalité, moi, je trouve. Hein.
Est-ce que je pourrais rejouer ?
Oui.
Mais si on la faisait jouer toute seule, ce serait peut-être plus facile. Appelez-nous.
C'est pas gentil,
ça. Audrey ?
Oui, Anne.
Vous rejouez avec nous et de toute façon, je pense que ça va aller de mieux en mieux.
Oui.
Dans votre vie.
Vous allez perdre de moins en moins.
Je fais tout pour vous rigoler. Je suis pas en dépression.
Ah non. Bon, on vous embrasse, Audrey. Voilà. Bon courage pour la rentrée.
Merci à vous.
Et vous rejouez avec nous d'ici un mois.
Eh bien, avec grand plaisir.
Aurélien, bravo. Continuez à nous écouter. On vous embrasse.
Gros bisous.
Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.
Aurélien, au revoir.
Si vous voulez jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site www.europe1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Ben H, Jean-Philippe Bizini, Christine Béroux et notre première invitée Géraldine Maillet pour son livre Le Carnet Interdit, coécrit avec sa fille Mathilde qui vient de sortir aux éditions Hugo Genet.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizini, Ben H, Christine Béroux et notre première invitée. J'ai plusieurs points communs avec elle.
Ouais.
Comme moi, elle est auteure et comme moi, c'est une ex-mannequin.
Ah oui, exactement pareil.
Elle vient nous présenter son nouveau livre coécrit avec sa fille de 15 ans, Le Carnet Interdit aux éditions Hugo Jeunesse. Un carnet original et idéal pour se défouler, renouer avec l'écriture ou écrire son journal intime Nouvelle Génération. Elle va nous livrer le mode d'emploi. Applaudissements pour Géraldine Maillet. Bonjour Géraldine Maillet, vous voulez nous parler de ce petit livre, qui est un livre d'humour en fait, destiné aux adolescents. Expliquez-nous comment est née l'idée.
Le portable et ma fille, cette sorte de relation addictive avec les portables, et j'en ai eu marre. Et en fait, je me suis aperçue que quand elle avait un livre entre les mains, en fait, elle était très heureuse et elle se passait très bien de son portable. Et j'ai voulu créer une sorte de journal interactif, ce qu'on appelle les bullet journal aux États-Unis ou en Angleterre, et qui est un carnet pour écrire, pour rigoler, pour décharger toute son adrénaline, en particulier pour les pré-ados qui passent par tous les états, en fait. Puisque moi, ma fille, à midi, elle est euphorique, à midi 15, elle a envie de me tuer, à midi et demi, elle a un bouton, à une heure, elle est amoureuse, et à deux heures, elle veut carrément déménager.
Mais ça, c'est l'adolescence.
Oui, c'est l'adolescence, mais je trouve que le portable ne fait que amplifier tous ces états, et au contraire, l'écriture permet justement de fantasmer, d'imaginer, de se projeter, de rêver.
Alors Géraldine Maillet, le grand public, vous connaissez, vous ont vu comme chroniqueuse dans Touche pas à mon poste.
Oui.
Vous avez une carrière de mannequin aussi internationale, il faut le dire.
Oui, ouais. International, c'est très important. Ça fait toute la différence. Oui.
Et moi, quand on vous voit, moi, je vous avais rencontré, je me dis, cette femme, elle n'a pas de problème dans la vie. Et en fait, je découvre en lisant votre biographie que vous avez eu des débuts de vie très difficiles, puisque votre maman était étudiante en médecine, votre père était médecin, il l'a abandonné quand vous aviez... Vous étiez toute petite, vous avez 3 ans, c'est ça ?
Oui, 5. Mais
5
voilà.
Et vous avez vécu une existence un peu précaire. Votre maman avait des gros problèmes de santé, des problèmes d'audition.
Oui. Elle était c'est la partie sérieuse, alors. Alors oui, donc du coup, oui, c'est vrai que ma maman est devenue sourde quand j'avais 13 ans, quand j'étais ado.
Ouais.
Et c'est peut-être d'ailleurs grâce à elle et à cause d'elle que je suis devenue écrivain, puisque je me suis mis à écrire pour communiquer avec elle. Et c'était une maladie dégénérative de l'oreille interne, voilà, une maladie héréditaire. Grâce à Dieu, je ne l'ai pas. Et effectivement, ça a été, c'était un moment difficile parce que je ne pouvais pas communiquer avec ma maman.
Et vous n'aviez pas d'argent non plus ?
On n'avait pas du tout d'argent. On était poursuivis par les huissiers. On vivait dans une chambre de bonne. Et ça a été, c'est pour ça que je me suis mis à travailler et je suis devenue mannequin pour payer mes études. Voilà.
Et après,
comme
ça,
quoi, il ne faut pas se fier aux apparences.
Non, c'est ça. Vous êtes battue en fait. Et vous dites que ça
battue.
Vous a donné une force aussi, ces débuts difficiles dans la vie.
Oui, non, mais après, de toute façon, ce qui ne vous tue pas vous rend beaucoup plus fort. Donc, non, moi, j'en garde aussi un très très bon souvenir parce que je pense que grâce à elle, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais faites dans ma vie, comme justement écrire des romans, faire des films, même pourquoi pas chroniqueuse à la radio ou à la télévision. C'est mille vies en fait. Elle m'a permis de faire 1000 vies puisque j'en aurais eu qu'une. À cause, enfin, sans cette maladie.
Moi, ma mère, elle m'avait permis de faire 1000 vies aussi. J'ai essayé mannequin, pas pris. Hein. Pas,
ah bon, mais
pas,
pourtant, pas vous pris. Savez qu'il y a.
Pourtant, juste pourtant, ça suffit. Non, mais
pourtant,
pourtant,
quoi, Gérard Dumayet.
On voit pas du tout.
Alors, que... prenez pas ça personnellement, mais à Londres, à mon époque, il y avait une agence de mannequins
qui prenait des gens comme ça.
Qui prenait, ça s'appelait Ugly.
Non, mais.
Ugly, ça veut dire laid pour les auditeurs.
Ouais, c'est mignon.
Non, parce que moi.
J'étais ravie de vous rencontrer.
Non, mais vous savez que
continuez,
moi
j'adore ce que vous dites.
À mon époque, la mode, c'était les grandes blondes. Et moi, quand je suis arrivée dans l'agence de mannequins, en l'occurrence, la première agence que j'ai faite, c'était Glamour. Moi, je suis Olive, quoi, la femme de Popeye, grande, brune, avec la peau blanche.
Vous êtes très grande, vous mesurez combien,
Gérard? 1,82.
Ah oui, quand même.
Ça fait deux fois Ben H.
Et l'agent m'a dit, mais en fait, c'est affreux, en fait. C'est la mode des blondes, un peu hâlées. Et puis, de toute façon, ce nez, ça va pas. Donc, il fallait tout refaire. Et en fait, j'étais totalement effondrée. Et un jour, j'ai retrouvé un agent extraordinaire, Fabienne Martin, qui m'a dit, mais non, mais au contraire, il faut cultiver sa différence.
Ah, note Fabienne Martin, faut que t'appelles.
Donc voilà, donc essayez pas d'être quelqu'un d'autre, puisque les autres sont déjà pris, restez vous-même et vous êtes très bien comme ça.
Eh ben, je note.
Oui. On sait pas si c'est un compliment.
En plus, il est un petit peu fragile sentimentalement en ce moment.
Non, ouais. Je suis abattu, mais là, maintenant que je sais que je suis moche, courageux.
Il a détruit son cœur cet été.
L'encouragé à s'inscrire chez Ugly, là, en ce moment, je suis pas sûr.
Non, mais c'était hype de fou, Ugly. Tout le monde voulait y être, bien sûr. C'était les oreilles écartées.
Non, mais je pense qu'on va arrêter là parce que là, après, c'est moi qui bouffe avec lui à la cantine. Hein, donc
je sors.
Et alors là, vous êtes mis au poker et vous êtes passionné de poker.
Mais vous connaissez toute ma vie en fait.
J'ai étudié.
On me suit depuis 2 mois.
Ça fait peur.
Vous avez comme ça plusieurs vies en une, quoi.
Ah, j'adore le poker. Vous jouez pas?
Pas du tout, non.
Personne ne joue autour de la table.
Non,
vraiment.
J'ai cassé. Non, mais
on va s'y mettre.
Je vous assure, c'est extraordinaire. C'est en fait, on observe les gens en permanence et on. Grâce à l'observation, on voit au bout d'un moment qui ils sont.
Et moi, vous diriez quoi alors si vous observez ?
Moi, je pense que vous êtes beaucoup plus à fleur de peau et beaucoup plus sensible que l'apparence que vous voulez donner.
C'est vrai.
C'est vrai. Elle est complètement tarée en vrai.
Et je pense que vous êtes une très bonne camarade. Je pense que ça doit être génial d'être votre amie.
Oui,
ça c'est vrai. On ne sait pas encore. On attend l'amitié, on l'attend.
Si, c'est vrai.
Je pense que vous devez être très fidèle. Si on vous trahit ou si on vous fait un sale coup, je pense que vous êtes mais vraiment hyper rancunière.
Oh, bon, on n'a même pas essayé.
C'est la définition du Labrador, ça, tout ça.
Christine Bérou, ici présente, a des choses à vous dire. Elle a lu votre carnet interdit.
Tout à fait. Bonjour Géraldine Maillet. Alors j'ai lu ce livre avec beaucoup d'attention parce que j'ai une fille d'un an et demi et je voulais savoir à quoi m'attendre parce que la crise d'ado, moi j'ai peur. Je dis pas que ma fille est difficile, hein. J'ai juste qu'elle s'appelle Jane et je l'appelle Kim Jae-hoon. Ça lui va très bien et pas seulement parce que récemment j'ai raté sa coupe de cheveux. Alors pour écrire ce livre, vous êtes attribué le vocabulaire des ados alors que vous êtes une adulte. Alors un adulte qui parle comme un ado, on a l'habitude, on a Ben H. Mais vous, vous vous adressez à la sensibilité de l'ado qui vous lit pour l'aider à canaliser son énergie parce que vous l'avez dit, l'ado elle part dans tous les sens. Le moindre truc, c'est le drame. Après, elle s'en fout. C'est Laetitia après la mort de Johnny. Mais l'ado, vous la ramenez sur le terrain de la réalité en lui suggérant, par exemple, de décrire sa coque d'iPhone. Alors, j'ai joué le jeu. Moi, ma coque d'iPhone, vous voyez, ce sont des fleurs séchées à l'image de ma dernière relation. Voilà, c'est joli de loin. Mais de près, on voit bien que c'est mort. Parfois, j'ai eu l'impression que vous vous adressiez non pas à une ado, mais à moi. Je pense à la recette du brownie au M&M. C'est là que je me suis dit, Géraldine Maillet, elle me connaît bien. Après, j'ai tourné les pages et vous demandé. T'as déjà embrassé sur la bouche avec la langue? Et là, j'ai réalisé, ouais, en fait, elle me connaît pas du tout. C'est utile ce livre. Il y a tellement d'ados inquiétants qui dégagent une énergie bizarre, mais assez parlé de Greta Thunberg. Non, moi, j'adore Greta Thunberg. Je suis jalouse parce que, vous voyez, à 16 ans, elle veut sauver la planète, alors que moi, à 16 ans, je voulais être Jennifer Aniston. Bon, dans les deux cas, on est sur une cause perdue. Non, c'est pas vrai. Je veux pas être pessimiste. Je pourrais tout à fait être Jennifer Aniston. Et alors, des fois, avec les ados, vous êtes cash. Par exemple, à un moment donné, vous écrivez, sors l'aspirateur et range ta chambre. Et là, Anne réalise qu'elle va offrir ce livre à sa fille. Alors Géraldine, on dit qu'il faut dire à une femme belle qu'elle est intelligente et à une femme intelligente qu'elle est belle. Vous qui êtes les deux, je ne sais pas quoi vous dire sinon que si vous parlez si bien aux ados, je vous enverrai la mienne dans 10 ans. Voilà,
avec plaisir. Le rendez-vous est pris. Merci.
Merci Géraldine Maillet d'être passée nous voir. On rappelle votre livre Le Carnet Interdit, coécrit à votre fille Mathilde et illustré par Elisa Gonzalez qui vient de sortir aux éditions Hugo Jeunesse. Merci à vous.
Merci pour cet accueil.
On se retrouve dans quelques instants. C'est Eric Emmanuel Schmitt qui sera notre invité. Ne bougez pas.
Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff. Manoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Mérou et notre invité qui est l'un des auteurs francophones les plus lus au monde. Ses œuvres ont été traduites dans plus de 40 langues. Ses pièces de théâtre se jouent dans plus de 50 pays. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Eric Emmanuel Schmitt qui est avec nous ce matin sur Europe 1. Ouais. Bonjour Eric Emmanuel Schmitt.
Bonjour.
Alors vous venez pour une double actualité, vous venez de nous parler de votre pièce de théâtre Madame Pilinska et le secret de Chopin que vous jouez à partir du 29 août au Théâtre Rive Gauche à Paris, vous jouerez à partir du 29 août. Et c'est une pièce que vous avez écrite, mais vous tenez aussi le rôle principal de Madame Pilinska. C'était prévu que vous jouiez le rôle que vous, quand vous l'avez écrit ?
C'est pire que ça, je me suis donné tous les rôles. Parce que je joue à la fois Eric Emmanuel Schmitt à 20 ans qui prend des cours avec Madame Pilinska et je fais aussi Madame Pilinska avec un accent polonais. Et puis moi aujourd'hui racontant cette histoire. Oui, j'ai carrément.
Vous avez trois rôles.
J'ai trois rôles.
Il fait l'ouvreuse aussi. Il fait l'ouvreuse.
Et je mime les chats aussi. Et puis parfois je vais au piano, c'est-à-dire quand il faut jouer mal, c'est moi qui joue. Et quand il faut jouer bien, c'est un grand pianiste qui est avec moi sur scène.
On peut donner son nom ?
Oui, Nicolas Stavi. Voilà, et qui joue sublimement du Chopin. Quand il faut jouer mal, c'est moi.
Là, vous avez une passion pour la musique, Eric Emmanuel Schmitt ?
Ben oui.
Vous étiez déprimé quand vous étiez petit. Vous dites que Mozart vous a sauvé. Vous avez commencé le piano à 9 ans.
Oui. La musique fait partie de ma vie. La musique me redonne l'énergie, me redonne la joie. La musique aussi me donne des larmes, mais vous savez, des bonnes larmes. Puisque tout d'un coup, on a toujours la bêtise quand on est triste de croire que jamais personne n'a été aussi triste et qu'on est les seuls au monde à éprouver de la souffrance. Puis tout d'un coup, vous entendez une belle musique triste de Mozart.
Vous pleurez en musique.
Vous pleurez en musique et vous vous dites, ah, c'est universel finalement la tristesse. Et puis, en fait, ça peut être beau même, la tristesse. Alors, vous prenez une grande leçon de philosophie parce qu'au fond, la musique triste vous explique qu'on peut aimer la tristesse et que ça fait partie de la vie. Et qu'être heureux, c'est pas se protéger de la tristesse, mais c'est aussi intégrer la tristesse dans la trame de sa vie.
Oh, c'est beau parce que j'ai envie d'être triste tout d'un coup. Bonne humeur, j'ai envie d'être triste pour partager ce moment.
Après une rupture, quand j'écoute la musique triste parce que je suis hyper triste, c'est en fait parce que je suis heureux.
Non, heureux d'être triste.
Oui, mais on peut avoir du plaisir à être triste.
Bah, oui, mais enfin, quand on pleure tout seul dans son lit, on n'est pas très heureux.
Non, racontez-nous. Hein.
Il faut mettre du Chopin.
Moi, je pleure sans musique.
Oui. Vous, c'est sur la compagnie créole. Ça, du coup, ça marche plus. C'est plus pareil. Il faut mettre du Chopin.
Alors, vous dites, Eric Emmanuel Schmitt, que tout le monde ne peut pas jouer Chopin, que vous n'aviez jamais réussi finalement à jouer Chopin. Oui. Un jour, vous avez rencontré une femme qui s'est mise au piano et elle a fait un Chopin magnifique.
Oui. Et
elle vous a donné la clé d'entrée pour Chopin, en fait.
Moi, non, j'y suis jamais arrivé.
Même maintenant ?
Si, maintenant, j'arrive à peu près à imiter quelqu'un qui jouerait bien Chopin. Mais
Et donc, ce personnage de professeur de piano, Madame Pilinska, a vraiment existé ? Elle s'appelait comme ça ?
Elle ne s'appelait pas Madame Pilinska, j'ai changé son nom. Mais c'était un personnage absolument extravagant.
Vous l'avez rencontré à 25 ans, c'est ça ?
Ou même 20 ans. Je venais d'arriver à Paris, je faisais mes études de philosophie. Et je voulais absolument poursuivre mes cours de piano. Et je suis tombé sur ce personnage assez extraordinaire qui a commencé par me dire « ne touchez plus un piano ». Si vous voulez jouer bien du piano, ne touchez plus un piano. Ouais. Mais par contre, allez tous les matins à l'ouverture des grilles au jardin du Luxembourg et apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée pour avoir un toucher délicat. Et puis ensuite, elle me demandait de jeter des ronds dans l'eau pour voir comment l'onde se forme. C'est comme une onde sonore et comment elle meurt.
Particulier comme cours de
piano.
Elle
me demandait de regarder le vent dans les arbres parce que la main gauche doit être solide comme le tronc et puis la main droite doit être fluide.
C'est une professeure de vie, en fait.
Et c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai écrit ce texte, parce que
il s'agit pas que de leçons de piano.
C'était des cours
en fait.
De vie. Et puis surtout qu'elle est carrément intervenue dans la vie privée.
Ah bon ?
Un jour, elle me dit non, vous appliquez trop, vous êtes trop contracté. La prochaine fois, pour votre prochaine leçon, venez après avoir fait l'amour.
Ah, d'accord. Voilà. Mais elle a précisé. Ça, elle jouait du piano ou pas ?
Elle oui. Mais voilà.
Et alors, vous avez
d'ailleurs, mais l'amour avec quelqu'un. Hein, vous avez ça sous la main ? voilà. Et puis. Et puis quand je suis revenu, j'étais plus décontractée. Elle m'a dit oui, mais ça ne donne pas ce que j'espérais. Alors j'ai l'impression que vous faites l'amour comme on prend un tunnel en visant la sortie.
C'est une belle image. Hein.
Elle m'a dit regardez votre partenaire dans les yeux.
Vous avez fait des progrès en piano finalement avec cette méthode qui vous recommande de tout faire sauf de jouer du piano.
Si oui, bien sûr, j'ai fait des progrès en piano, mais surtout. Elle a vu arriver un garçon de 20 ans qui était trop volontaire, qui n'était pas dégrossi, qui ne comptait que sur son énergie et sa volonté. Et puis elle
vous a détendu, en fait. Elle vous a appris. Ça,
elle m'a affiné, en fait. C'est-à-dire, vraiment, elle m'a rendu sensible au monde, aux événements, aux sons, aux autres.
Vous l'avez gardé combien de temps, cette professeure de piano?
3-4 ans,
ouais. Ah oui, quand même.
En fait, c'était un professeur d'attention, vous savez. C'est-à-dire, elle a su me rendre attentif.
C'est une belle rencontre, c'est une rencontre de vie,
ouais,
ça.
Ouais, une belle rencontre. C'est des êtres complètement excentriques, complètement fous, qui, en fait, vous apprennent à connaître la vie et vous-même, parce qu'elle m'a révélé plein de choses. Parce qu'elle m'a dit un jour, vous jouez très bien Chopin, mais pas sur un piano.
Ah oui.
Écrivez. Écrivez. Et en fait, c'est vrai que ça a guidé ma vie après, parce que je me suis toujours dit, il faut écrire comme Chopin, c'est-à-dire dans l'intimité. Vous savez, Chopin, c'est pas quelqu'un qui va prendre un orchestre de 250 musiciens avec des chœurs, c'est le piano. Et le piano fermé, avec le couvercle fermé. C'est un musicien de l'intime. Et moi, j'ai toujours voulu écrire comme ça, dans l'intimité, écrire comme pour mes proches, ou faire en sorte que le lecteur qui me lit devienne un de mes proches.
Justement, on va écouter un peu de Chopin. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Eric Emmanuel Schmitt, qui vient nous parler de la pièce Madame Pilinska et le secret de Chopin, qui sera au théâtre Rive Gauche à partir du 29 août, et de son dernier livre, Journal d'un amour perdu, aux éditions Alma Michel. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants.
Anne Romanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous ce mardi sur Europe 1 avec Jean-Philippe Vizini, Ben H, Christine Béroux et notre invité Eric Emmanuel Schmitt, venu nous parler de la pièce Madame Pilinska et le secret de Chopin, qui sort au théâtre Rive Gauche à partir du 29 août, et de son dernier livre Journal d'un amour perdu, aux éditions Albin Michel. Alors, cet amour perdu, c'est l'amour de votre mère, Eric Emmanuel Schmitt.
Oui.
Ce livre commence par son décès. Vous racontez cette relation fusionnelle.
Oui, oui.
Dites c'est la première fois que...
Oui, la première phrase du livre, c'est maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. Parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. J'avais une relation absolument extraordinaire avec ma mère. Et je ne pensais pas qu'elle pouvait me faire un coup de salaud.
En plus, elle est morte brutalement. Vous dites qu'elle était une grande sportive.
C'était une sprinteuse.
Hein, elle est morte en quelques secondes.
Exactement.
Alors qu'elle était en pleine forme, en fait.
Oui, elle a été championne de France pendant 20 ans de sprint. Vraiment, juste après-guerre. Et c'était vraiment une championne. Mais elle a été aussi une championne de la mort. Elle est morte en pleine forme en quelques secondes. Voilà, tant mieux, parce qu'elle ne s'est pas vue partir. Voilà, c'est la seule consolation.
Par contre, vous n'étiez pas du tout préparé à sa disparition.
Oui, ni ma sœur ni moi n'étions prêts à la voir partir. On était persuadés qu'on fréquentait une future centenaire. Mais heureusement, on n'a pas de regrets, au sens où on a toujours passé le temps qu'il fallait ensemble. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir de ce côté-là. Mais oui, j'essaie, dans ce livre, qui s'appelle « Journal d'un amour perdu », je raconte le deuil, en fait. Le deuil, quand tout d'un coup, des tonnes d'amour vous sont enlevées. Moi, je ne savais pas avancer sans cet amour à mes côtés. Et puis, tout d'un coup, il faut apprendre à ne plus être l'enfant de personne. Et puis à avancer. Et en plus, avec un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire que ma mère m'avait fait le cadeau de la vie, mais aussi le cadeau de la vie heureuse. C'est-à-dire, elle adorait la vie, elle était passionnée par tout, le théâtre, la musique, la littérature, les voyages. Et voilà, elle m'a rendu gourmand de la vie et heureux. Et tout d'un coup, elle n'aurait pas supporté que je sois aussi malheureux.
Et vous avez découvert à sa disparition des petits carnets où elle parlait de vous.
Oui.
Et quand elle parlait de vous, elle disait Eric Emmanuel, quand elle parlait de vous. Et quand elle parlait de l'auteur, elle disait Eric Emmanuel Schmitt. Elle disait EES, c'est ça?
Voilà, ouais. C'est ça.
Et il y a un moment, elle vous critique. Vous avez lu des critiques de...
Oui, oui.
Elle dit qu'il en fait trop, c'est ça?
Non, elle dit EES, donc ça c'est le personnage public, EES, très à l'aise, trop.
Et ça, elle vous l'a jamais dit en vrai?
Non.
Et vous dites aussi que vous aviez comme devis, vous aviez votre vie réelle et la vie que vous le racontiez, vous essayiez toujours de la distraire, de la divertir en racontant des anecdotes.
En fait, moi je faisais ma gazette plusieurs fois par semaine, c'est-à-dire je racontais ma vie, la vie. En fait, c'était un allègement extraordinaire, parce que comme je ne voulais pas l'embêter avec des choses tristes, j'enlevais, ou je distançais, ou je parlais avec humour de ce qui pouvait m'avoir agacé ou peiné. Et donc, je ressortais de ces discussions toujours encore plus léger et plus joyeux. Donc oui, j'avais deux vies. J'avais la vie que je menais et puis la vie que je racontais. Et c'est vrai que quand elle est partie, tout d'un coup, c'est peut-être pour ça que le journal intime a pris tant de place. Je ne pouvais plus adresser cette parole à qui que ce soit. Et puis je n'avais plus tout d'un coup cet allègement aussi qui consistait à... On riait vraiment de tout ce qui est terrible, quoi. Voilà, tout d'un coup, c'était comme une hygiène aussi d'existence, une légèreté assumée qui disparaissait.
Donc c'est un livre sur le chagrin, mais sur l'amour aussi.
Ah bah complètement, c'est un livre d'amour. Mais alors
qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui vivent un deuil comme ça et qui ont du mal ?
Bah vous savez, on dit une chose qui m'agaçait lorsque ma mère est morte, on disait un deuil ça prend 2 ans. Et je me suis rendu compte que oui, ça prend 2 ans, c'est-à-dire que pour que la tristesse ne soit pas le premier sentiment. Qu'est-ce que c'est la tristesse ? C'est le rapport à ce qui nous manque. Alors on ne voit dans le monde que ce qui nous manque. On ne voit que l'absence. On ne voit plus les présents. Et moi, j'ai passé vraiment deux ans comme ça. Et puis tout d'un coup, vous changez de rapport au monde. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu avant et qui n'est plus là, loin d'obscurcir le présent, tout d'un coup l'enrichit. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un rapport au souvenir. Le souvenir ne me rend pas le présent vide. Le souvenir ne vide pas le monde. Mais le souvenir, tout d'un coup, l'enrichit, comme si s'il devenait un millefeuille. C'est en ressortir enrichi et non pas appauvri.
Alors vous dites, Éric Emmanuel Schmitt, que votre mère avait des jambes qui défiaient les chronomètres et faisaient se retourner les hommes. Vous êtes en train de me dire qu'il faudrait que je me mette à la course, c'est ça ? Parce que moi, si un homme me court après, j'ai tendance à ralentir pour être sûr qu'il me rattrape. Il n'y a pas un moyen plus rapide pour se retourner les hommes ? Je veux dire, comme rester dans son canapé en mangeant de la glace ou...
Vous avez essayé ça ?
Bah oui.
Et alors, ça marche ?
Non.
Ah bon ?
Alors ensuite, Éric Emmanuel Schmitt, vous serez aussi en tournée avec un de vos plus grands succès, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, à partir d'octobre. C'est un plaisir de revisiter cette œuvre comme comédien aussi.
Oui. C'est un plaisir de la partager avec le public, surtout. Parce que vous savez, quand on écrit, on est très seul. Et puis on se demande parfois si on n'est pas fou, on rit de ce que dit un personnage, on est ému par ce que fait un autre, et on se dit, mais est-ce que je ne suis pas totalement taré, quoi ? Et là, quand on est sur scène et qu'on incarne, bah on a le public qui est là en face, comme une patte de chat qui sort les griffes ou qui s'adoucit. Et c'est merveilleux, quoi. Et on se guérit de la solitude de la création.
Moi, vous avez l'air d'un homme heureux, Éric Emmanuel Schmitt.
Ben, c'est ce que je raconte dans mon livre. J'ai un devoir de bonheur. C'est-à-dire que...
Vous êtes souriant comme un Bouddha, un peu.
Articulez bien, Bouddha.
J'ai pas dit Bouddha, hein, j'ai dit Bouddha. Non, mais vous avez une espèce, vous dégagez une espèce de sérénité.
Oui,
c'est vrai, ça, ou c'est une façade ?
Mes proches m'appellent le Bouddha, oui, tout à fait.
Et il paraît que le matin, sous la douche, vous chantez Dalida.
Écoutez, ah, personne n'est parfait. Hein. Je chante, laissez-moi danser.
Ah, oui. Et ça donne quoi ?
Ça donne qu'il n'a plus de voisins. Tout simplement.
Bon, laissez-moi danser, laissez-moi.
C'est pas bientôt fini ce bordel !
Et là, je pense qu'on va me laisser.
On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Éric Emmanuel Schmitt, venu nous parler de Journal d'un amour perdu aux éditions Albin Michel et de sa pièce Madame Pilinska et le secret de Chopin au théâtre Rive Gauche à partir du 29 août. Ne bougez pas, on revient.
Une heure de détente avec Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Roumanoff sur Europe 1.
Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Jean-Philippe Bizini, ouais, Ben Hache, Christine Béroux et notre invité Éric Emmanuel Schmitt, venu parler de la pièce Madame Pilinska et le secret de Chopin au théâtre Rive Gauche à partir du 29 août et son dernier livre Journal d'un amour perdu aux éditions Albin Michel consacré à votre maman. C'est un peu l'anti-Yann Moix, votre livre, parce que vous, c'est un livre d'amour.
D'ailleurs, on va se retrouver sur un plateau de télévision.
C'est vrai ?
Oui, c'est...
Vous finissez votre phrase. Hein ? Vous finissez pas votre phrase.
Non, mais j'ai lu son livre en plus, qui m'a beaucoup touché. Moi, j'ai eu la chance de recevoir de l'amour. Oui, j'ai eu ce...
Et puis... Souvent, on pense que les artistes doivent avoir une enfance difficile. Finalement, ça n'a pas du tout été votre cas.
Non, ça donne des ailes aussi d'être aimé. Parce que ça donne l'idée que... D'abord, on croit qu'on est aimable quand on est aimé. Donc déjà, c'est un problème qui est résolu.
C'est une confiance, en fait.
Oui, une confiance.
Une confiance inébranlable.
Et puis moi, je n'étais pas seulement fils de parents qui m'aimaient, mais fils aussi de sportifs.
De grands sportifs. Ça, par contre, vous n'en avez pas hérité, Éric.
Non, du tout.
Il paraît que quand vous étiez petit, vos copains disaient « Oh, t'as de la chance, tes parents, ils font toujours de l'escalade, du ski. » Et vous préfériez rester chez vous à lire et jouer du piano.
Ah oui. J'aurais donné mes parents à tous mes copains et mes copines qui les voulaient absolument.
Et ils devaient vous booster pour faire du sport.
Ma mère avait laissé tomber assez vite. Mon père, je ne sais pas pourquoi, il s'est obstiné, mais c'était son caractère.
Et vous ne ressemblez pas du tout à votre père?
Non,
vous,
du
il
tout.
Était aux yeux bleus. Il paraît que quand vous étiez au restaurant, personne ne devinait que vous étiez son fils.
Oui, oui, oui. Bah, du coup, je me suis posé, déjà que tous les enfants ont tendance à se dire, suis-je bien le fils de mes parents? Moi, je raconte dans le livre... Tout ce qui mentalement pendant des années m'a traversé.
Vous êtes son
par rapport
fils.
À moi. Oui, oui, oui. Mais voilà, je raconte aussi ces débats intimes qu'on peut avoir dans des moments de la vie où on veut croire qu'on n'est pas le fils de la personne.
Par contre, vous dites que vous aviez les jambes de votre mère, vous couriez très vite.
Moi, je cours vite, oui.
Oui. On croirait pas à vous voir comme ça.
Mais je cours assez peu.
Que de compliments, que de compliments.
C'est ma journée.
Par contre, il paraît que vous marchez dans
c'est
la
journée cœur brisé.
Ben Hache a des choses à vous dire, Eric
oui.
Emmanuel Schmitt.
Eric Emmanuel Schmitt, bonjour. Sincèrement, ravi de vous rencontrer. Je pourrais profiter de ce moment pour vous dire à quel point votre ouvrage Oscar et la Dame Rose m'a bouleversé il y a quelques années. C'est même le tout premier livre qui m'a fait pleurer. Enfin, le premier livre où j'ai pleuré grâce à l'histoire. Ah, y a d'autres livres qui m'ont fait pleurer aussi, mais c'était simplement parce que je devais les lire. Hein, Madame Bovary, si tu m'écoutes. Mais je pourrais vous dire aussi qu'à mes yeux, vous êtes de ces plumes touche-à-tout aussi à l'aise sur les planches du théâtre gauche que sur les présentoirs des libraires depuis 30 ans. Vous êtes de ces hommes qui, toujours armés d'histoire, peuvent prendre à bras le corps n'importe quelle passion et se les approprier à la force du maniement des mots. Et c'est comme ça qu'on vous a retrouvé, Eric Emmanuel Schmitt, lors des JO de Rio, à commenter de l'athlétisme. Faut faire le lien entre Usain Bolt et Eric Emmanuel Schmitt. Hein. Des planches au théâtre jusqu'au 110 mètres haies. Il n'y a qu'un coup de stylo pour vous. Alors pour justifier ce grand écart, vous dites que vos parents athlètes se sont rencontrés au stade, vous donnant la passion pour ce sport. Hein. Je peux comprendre. Les miens se sont rencontrés en club échangiste, d'où ma passion pour le troc, évidemment. Ah, mais ce midi, non, je ne m'adresserai pas à l'écrivain ou au dramaturge que l'on connaît tous, je ne m'adresserai pas non plus au consultant sportif que l'on connaissait moins. Non, je souhaite m'adresser aujourd'hui au président du SDPR, le syndicat de défense des prénoms à rallonge, que vous présidez depuis 97, n'est-ce pas? Et c'est vrai, Eric Emmanuel, 5 syllabes et demi, c'est beaucoup trop long, Eric Emmanuel Schmitt. En plus, dans votre cas, phonétiquement, Eric Emmanuel, on a l'impression que vous êtes deux, et que l'un des deux est maçon et originaire de Porto, c'est très perturbant. On a un stagiaire très jeune, quand on lui a dit au bureau qu'on allait recevoir Eric Emmanuel Schmitt, il nous a répondu Eric Emmanuel Schmitt, ils sont frères, c'est vous dire. Mais quelle honte, hein, quelle honte, je réalise que l'un face à nos écrivains les plus lus dans le monde, l'un de nos auteurs les plus joués sur la planète, je parle depuis 3 minutes de son prénom, c'est absurde. Le problème ne se posant même pas avec vous, hein, en plus, puisque vous êtes de ces hommes, Eric Emmanuel Schmitt, que j'appelle tout simplement monsieur. Merci de m'avoir écouté.
Vous avez toujours de l'inspiration, Eric Emmanuel Schmitt, ou des fois ça s'en va, vous avez
ah non,
peur?
Non, je pense que je mourrais sans avoir écrit toutes les histoires que j'ai déjà dans la tête.
Vous en avez encore plein?
Plein. Ah ouais, j'ai plein de sujets de romans, de pièces, de nouvelles. Ah oui, je me vis comme un paresseux, quoi. J'ai l'impression que je suis un arbre qu'il faut secouer de temps en temps pour que les fruits tombent.
Qu'est-ce qui vous reste à accomplir, Eric Emmanuel Schmitt, dans les années qui viennent?
J'ai un gros projet de roman en plusieurs tomes auquel je rêve depuis l'âge de 25 ans et j'ai enfin commencé cet été.
Vous êtes très occupé, alors le théâtre, comédien,
ouais,
auteur.
C'est terrible.
Les dédicaces aussi, vous allez beaucoup, ouais, à la rencontre de vos lecteurs.
Et puis les voyages à l'étranger. Je vais faire ma première tournée en Chine pour mes livres au mois de novembre. Ouais, j'aime bien.
Et avoir un théâtre, c'est quand même un truc de fou. Ça fait 7 ans que vous avez le théâtre Rive Gauche. Est-ce qu'il y a des jours où vous regrettez les soucis d'un directeur de théâtre, remplir ses salles?
Pas des jours, des nuits.
Des nuits, c'est vrai.
Il y a des nuits d'angoisse parce que on se dit... parce que même parfois, quand on fait un succès, ça n'est pas rentable.
Bien sûr. Ouais.
Voilà. Donc, on se dit, comment est-ce que je vais arriver à payer tout le monde, etc. etc. Alors, dans ces cas-là, je fais comme tous les directeurs depuis que le théâtre existe. Je prends sur ma cassette, je prête au théâtre, on paye tout le monde. Puis quand ça va mieux, je récupère. Mais
ça vous plaît, ce contact?
J'aime bien pouvoir faire aussi du théâtre comme ça, faire de la création.
Là, un peu artisanal, dans une petite salle.
Complètement. Bah, une salle de 400 places.
Parlons de cette saison. Là, vous avez Madame Pilinska et le secret de Chauvin.
Ah voilà, un mois, Madame Pilinska.
À partir du 29 août.
Et ensuite, toujours Adieu Monsieur Hoffmann de Jean-Philippe Daguerre, donc qui va atteindre sa 1000e représentation à 19h.
Au théâtre Rive Gauche.
Ouais, et à 21h, il y aura la nouvelle pièce de Jean-Philippe Daguerre qui s'appelle La famille Ortiz.
Et ben on ira voir tout ça. Merci Eric Emmanuel Schmitt d'être passé nous voir. On rappelle donc Madame Pilinska, Le secret de Chopin au théâtre Rive Gauche à partir du 29 août et ce très beau livre, Journal d'un amour perdu, qui sortira le 5 septembre aux éditions Albin Michel. Merci à vous.
Merci.
Nous, on se retrouve demain à partir de 11h et je vous laisse en compagnie de Raphaël Duchemin. Passez un excellent mardi à l'écoute d'Europe 1.